appeler.
Voilà, en attendant, on appelle tous à faire barrage au Front National sur le premier tour des législatives et le deuxième tour, c'est-à-dire au 30 et au 7. Et on appelle bien évidemment tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent à, au minima, aller voter, aller vous exprimer. C'est votre droit le plus simple. Voilà, nous allons terminer cette émission avec la petite phrase assez. Le monde changera sans fin. N'oubliez pas d'y être ni flexible, ni adaptable, ni soumis, ni mobile, et surtout pas récupérable, ni rééducable, d'y rester face à l'injustice, ingérable, indocile, ingouvernable, mutin, saboteur, sauvage, résistant et révolté, sans oublier partisan. Allez, à que ciao, bonsoir, à la prochaine.
Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne.
Avant ça, on commence avec quelques infos complémentaires avec toi Léa Perron, bonjour.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Comment Reconquête se cache derrière les parents vigilants? C'est ce que titre et questionne Sud-Ouest.
Parents vigilants, c'est environ 1000 membres revendiqués en Gironde. Des parents qui dénoncent l'idéologie woke et qui ont notamment fait interdire un stage de drag queens à destination des enfants à Mérignac au mois de février. Ce groupe de parents, qui revendique plus de 60 000 adhérents et adhérentes en France, entend défendre la protection de leurs enfants. Pourtant, leur discours est éminemment politique. Ils forment, selon Sud-Ouest, un vivier à militants dissimulés pour Reconquête, parti d'Éric Zemmour. Virginie Tourné, candidate Reconquête aux législatives dans la première circonscription de Gironde, est également l'ancienne référente de Parents Vigilants pour la Nouvelle-Aquitaine. Parmi les chevaux de bataille de ce collectif, empêcher l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles. Alors qu'un nouveau programme a été annoncé par la ministre de l'Éducation nationale et sera mis en place à la rentrée 2024, il abordera notamment les questions de violence, de consentement, de connaissance de son corps, notion essentielle pour lutter contre l'inceste qui, rappelons-le, touche plus de 160 000 enfants chaque année en France. Les parents vigilants mènent quant à eux, sur fond de transphobie et d'homophobie, des campagnes de désinformation sur ces sujets.
Sud Radio est mis en garde par l'ARCOM pour climato-scepticisme.
C'est la première fois que l'autorité régulatrice de la communication audiovisuelle et numérique statue sur un manquement concernant un sujet environnemental. Cette mise en garde constitue le premier palier avant de possibles sanctions financières. C'est le collectif Quota Climat qui a saisi les autorités en décembre 2023 concernant une séquence précise. François Gervais, climato-sceptique notoire, a été invité dans l'émission de André Bercoff, dans laquelle il a pu, je cite le collectif, « dérouler son argumentaire sans aucune contradiction dans un climat de complète connivence ». François Gervais est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « L'innocence du carbone »,« L'urgence climatique est un leurre »,« Merci au CO2 » et « Le déraisonnement climatique ». Dans un communiqué, le collectif Quota Climat salue cette décision de l'ARCOM qui donne la primauté au consensus scientifique et fait jurisprudence.
Toujours dans la sphère médiatique, des journalistes ont été écartés de la couverture des législatives à France Télévisions.
Le 21 juin, 5 journalistes du siège parisien de France 3 ont été sanctionnés pour avoir signé la tribune de défense de la liberté de la presse face à l'extrême droite. Selon des informations du site Blast, ces journalistes ont pour interdiction de couvrir les législatives en cours. Un journaliste politique a notamment été mis au chômage technique. Et la direction de France TV a justifié sa décision en avançant que cette tribune serait un appel à voter pour le Front Populaire et contre le RN et serait donc, je cite, « incompatible avec le traitement de la campagne électorale sur l'ensemble des supports de France Télévisions ». Serge Climineau, qui a été écarté des législatives, rappelle qu'il ne s'agit pas d'un appel à voter pour des candidats en particulier. Il s'agit de se mobiliser pour la liberté de la presse que l'extrême droite veut mettre à mal.
Et puis chez Radio France, l'hécatombe continue là aussi.
Après le renvoi de Guillaume Meurice, l'arrêt de l'émission de Charline Van Hoenacker et tant d'autres émissions, c'est au tour de l'émission « Entendez-vous l'écho » de disparaître. Tiphaine de Rocchini, qui a animé et produit l'émission durant 6 ans, quitte France Culture et elle affirme que ce n'est pas sa décision. Une émission d'économie appréciée pour ses analyses pertinentes et ses débats d'actualité, qui constituait pour certains la seule émission où on pouvait se faire sa culture historique en économie. L'animatrice fait ses adieux dans un poste X et espère que cette science sociale éminemment politique continuera à vivre sur les ondes de France Culture.
Merci Léa pour ce journal. 12h14 sur la clé des ondes, on s'intéresse maintenant aux élections législatives dont le premier tour, on le rappelle, a lieu ce dimanche. Deux mobilisations se poursuivent en parallèle, celle des militants politiques qui incitent à voter pour le nouveau Front Populaire et celle des syndicats et associations qui veulent barrer la route à l'extrême droite, Léa.
Lundi, près de 200 personnes étaient mobilisées en centre-ville de Bordeaux, selon Sud-Ouest, pour le député écologique sortant Nicolas Thierry. Cette opération de grande ampleur a probablement constitué l'une des plus grandes de l'histoire des campagnes bordelaises, des campagnes électorales bordelaises. Pour Nicolas Thierry, cela représente la marque de, je cite, « une dynamique face à la gravité historique du moment ». Et hier, mardi 25 juin, une autre opération de tractage a eu lieu à 11h30 à l'Hôtel de Ville de Bordeaux. Appelée par l'AG féministe de Gironde et par l'intersyndicale, plusieurs militants et militantes étaient rassemblés pour alerter contre les dangers de l'extrême droite. On écoute.
Bonjour, moi c'est Marie, je suis militante bénévole au planning familial de la Gironde. Alors aujourd'hui, si on s'est rassemblés, c'est pour montrer qu'on est à Bordeaux tous et toutes unis contre l'extrême droite et que les syndicats et les associations se sont mobilisés ensemble pour contrer l'extrême droite. Et du coup, il y a eu la création d'un tract commun avec une face commune à tous les syndicats, toutes les associations en tout cas qui ont montré volonté de lutter contre l'extrême droite et qui se sont engagées dans l'intersyndicale. Et du coup, il y a une face commune sur le tract et une face qui est propre après à chaque association ou à chaque syndicat pour un peu défendre ce que le syndicat ou l'association a plus envie de mettre en avant par rapport à ses activités. Nous, par exemple, au planning, c'est plus axé droits reproductifs, droits des personnes, des minorités de genre, des personnes trans, plus les thématiques planning familial et on essaye de mettre ça en avant.
Qu'est-ce que vous répondez, quel est votre avis sur le fait que Jordan Bardella se targue de lutter pour les droits des femmes ?
Bonjour, moi je m'appelle Gaëlle, je suis militante bénévole également au planning familial de la Gironde, de Bordeaux. Par rapport à votre question, moi en fait ce qui m'ennuie c'est que peut-être qu'il y a effectivement un souci de la femme et je pense qu'il se trompe peut-être de préoccupation et que si effectivement il y a une réelle volonté d'agir pour les femmes, il faudrait peut-être se renseigner sur ce que vivent les femmes réellement et ne pas véhiculer de fausses idées, comme par exemple les parallèles qui peuvent être faits entre les agressions que peuvent vivre certaines femmes ou les agressions dans les rues. Avec l'association du fait que ce serait perpétré par des personnes immigrées ou avec des origines, voilà. Moi, je trouve ces propos très dangereux puisque on a pu constater l'augmentation effectivement des violences, notamment conjugales, depuis le Covid, depuis les confinements. Et pendant les confinements, que je sache, nous étions chez nous, il n'y avait pas de mouvement entre les pays. Et c'est à ce moment-là que les violences ont commencé à augmenter. Et la plupart des violences, qu'elles soient commises envers les femmes, les enfants ou toute personne vulnérable finalement, qu'on soit en situation de précarité ou non, puisqu'il y a des victimes qui ont un statut social très élevé, ça ne touche pas que les personnes dans le besoin. Et ces victimes, pour la plupart, 90%, sont victimes d'un agresseur au sein de leur cercle proche. Donc quand j'entends on va protéger les femmes, mais de quel ennemi, je me le demande. Je vois une belle volonté, mais peut-être que regarder les faits permettrait à monsieur Bardella d'agir et de proposer des solutions efficaces envers un vrai ennemi. Voilà.
Donc ouais, c'est intéressant, c'est le cheval de bataille de l'extrême droite hein, qui est l'immigration et cette espèce de préjugé qui existe du mythe de l'agresseur dans l'espace public alors que ce n'est pas la majorité des violences commises envers les femmes.
Exactement, et je trouve que ça nourrit d'autant plus la culture du viol parce que finalement on passe à côté de comment s'est construite cette culture. Quand on parle de violence domestique, de violence banalisée, ça nécessite de porter un regard quand même critique et de fournir des informations qui soient factuelles au-delà de toute apologie finalement et discours. Et malheureusement, ces thématiques-là deviennent un outil marketing politique et on passe totalement à côté des enjeux et ça pérennise finalement la culture du viol au lieu d'attaquer sa vraie source.
Qu'est-ce que ça impliquerait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite pour des associations comme le planning familial ?
Alors du coup, pour nous, il y a déjà Marion Maréchal Le Pen qui, en 2015, elle avait dit que si elle passait au pouvoir, elle ne subventionnerait plus les associations telles que le planning familial. Et donc, c'est potentiellement l'arrêt des subventions et donc la fermeture de certaines associations comme le planning familial. Donc c'est vraiment la survie de nos associations qui est en jeu là finalement. Parce que sans subvention, en fait, on ne peut plus payer nos salariés. Donc même s'il reste tout le côté militant, en fait, il faut aussi des salariés parce qu'on a de tels besoins actuellement que même le nombre de salariés qu'on a actuellement ne suffit pas à répondre à toutes les demandes qu'on a. Il y a un réel besoin qui émane de la population et donc en fait, on est un vrai service d'utilité publique et du coup, voilà, ça entraînerait la fermeture de ce genre de service et ce serait bien dommage.
Et par ailleurs, je tiens à rappeler que le planning familial a 80 agences réparties sur tout le territoire. Il me semble qu'on a accueilli quand même entre 300 000 et 400 000 personnes sur l'ensemble de nos agences. Donc, je ne vois pas comment on pourrait se passer en fait, de ces services, sachant qu'en termes de santé, d'accueil pour les populations, les services sont assez saturés. Je pense par exemple en santé mentale. Comment peut-on se passer d'associations comme la nôtre et d'autres qui existent, qui prodiguent des services gratuits et qui permettent d'accompagner des gens qui vivent des choses dans leur quotidien, qui portent atteinte aussi à leurs droits, à leur santé mentale, et où il n'y a pas de relais de professionnels. Donc, finalement, menacer des associations comme la nôtre et comme tant d'autres, puisqu'ici on est venu finalement en collectif, c'est menacer les Français, les Françaises et toute personne qui sont en France finalement de manquer de soutien à une ère justement où les services de santé par exemple ne peuvent pas assurer. Voilà.
Et donc dans un des tracts que vous avez distribué, vous avez fait le lien avec certains reculs de droits, notamment dans des pays gouvernés par des gouvernements d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez vraiment parler des reculs de ces droits et comment vous faites le parallèle avec la dangerosité de ce qui peut se passer ici ?
Mais comme on peut le voir par exemple en Italie ou en Pologne, avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, on voit que l'avortement ne devient plus possible, ou alors très difficile, et que même si l'avortement n'est pas toujours supprimé, il est quand même, avec l'extrême droite au pouvoir, l'accès est quand même rendu plus difficile, et parfois il est totalement supprimé. Donc on peut déjà s'inquiéter pour tout ce qui a trait aux questions d'avortement, parce que même si là il y a eu la constitutionnalisation de l'avortement en France, on peut quand même s'inquiéter que quel accès il y aura réellement sur le territoire à l'avortement si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir, parce que même si elle est encore autorisée dans la loi, dans la constitution, est-ce que effectivement sur le territoire il n'y aura pas des obstacles, des anti-choix qui vont venir manifester devant des endroits où on pratique les avortements, etc. Donc c'est une vraie inquiétude qu'on a de se retrouver dans ce genre de situation.
Et pour compléter les propos de ma collègue, le RN qui, a priori, serait assez proche des classes, on va dire, populaires ou rurales, nous, au planning familial, nous avons une antenne dans le sud Gironde où la question des violences est particulièrement aussi présente. Il y a un réel accompagnement de vrais besoins. Et finalement, le RN au pouvoir creuserait ces inégalités. Et dans les zones les plus reculées, où il y a déjà, on le sait, un accès aux soins qui est parfois difficile, alors si en plus des associations comme la NOT ne peuvent pas prodiguer des services et un accompagnement de première intention et d'orientation, j'ai envie de dire, je ne vois pas comment la ruralité va pouvoir se sentir accompagnée par le RN. Ça me pose vraiment question, ça m'inquiète.
Voilà. Et donc une dernière question, la suite de la mobilisation, comment est-ce qu'on peut se mobiliser avec le planning familial, les associations, les syndicats?
Pour l'instant c'est surtout des actions de tractage, boîtage, voilà, à la rencontre des citoyens, des citoyennes, et notamment dans des circonscriptions où on sait que ça peut se jouer à quelques voix près entre du coup l'extrême droite ou le Front populaire. Donc voilà, c'est surtout ce genre d'action. C'est pas mal mobilisé dans la rue, mais là du coup avec les élections qui arrivent et la trêve électorale et tout, ça devient plus compliqué. Voilà, plutôt des actions de tractage, boitage jusqu'au premier tour qui aura lieu dimanche. Et après sur les réseaux sociaux aussi, beaucoup de relais informatifs sur ce qui est en train de se passer et en quoi l'extrême droite serait un réel danger si elle arrive au pouvoir.
Et pour terminer, je dirais que nous avons répondu, le planning familial, comme d'autres associations, à une alerte féministe aussi. Pourquoi ? Parce que 60% des femmes de moins de 35 ans n'ont pas voté. Donc quand on sait l'enjeu qu'il y a aussi pour les femmes, mais pas que, effectivement, le planning est une association féministe, mais on se bat pour toutes les personnes finalement qui subissent des discriminations. Et voilà, ce statistique est assez alarmant. Et si on est aussi dans la rue, c'est pour sensibiliser les femmes qui n'ont peut-être pas conscience de l'enjeu.
Stéphane Aubé, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats de la CGT de la Gironde. Mais aujourd'hui, beaucoup de jours, on se rassemble pour alerter sur les dangers de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, notamment le Rassemblement national et ses alliés. Et aujourd'hui, on le fait de façon unitaire avec d'autres syndicats et des associations girondines. Et on alerte notamment sur l'imposture sociale, économique du Rassemblement national. Il suffit, et on l'a fait, d'écouter le programme de hier annoncé par M. Bardella. Et en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est que le début, les masques y tombent. Rien pour les travailleurs et travailleuses. Les grands oubliés des annonces, c'est bien eux. En réalité, la fameuse abrogation de la loi retraite de 2023, ils y renoncent. Ils annoncent juste une petite mesure, et encore on attend de voir concrètement comment elle pourrait s'appliquer et à qui et pour combien, concernant des carrières longues. Donc on voit bien que là aujourd'hui l'imposture sociale elle commence à devenir de plus en plus flagrante, celle du Rassemblement National, et c'est en ce sens que nous, en tout cas à la CGT, On appelle à voter Front Populaire, puisque ces forces politiques qui ont décidé de s'allier ont repris une grande part des revendications de la CGT, notamment sur la question des salaires, un SMIC brut à 2000 euros, ce qui se traduit par 1600 euros net, l'abrogation de la loi retraite, le fait d'indexer les prix sur l'inflation, en réalité ça veut dire augmenter les salaires quand les prix augmentent. Également la question des services publics de proximité, ceux de l'école, ceux de la santé, à renforcer. Et ça, c'est des mesures qui, pour nous, parlent et devront parler concrètement demain. Parce que là, encore une fois, on sera en vigilance. Même si le Front Populaire arrive au pouvoir, ce qu'on souhaite, on restera en vigilance et on continuera à se mobiliser pour que non seulement les promesses du programme se traduisent dans la loi, dans la réalité des travailleurs et travailleuses, et qu'on puisse aller bien au-delà, notamment sur la question des revendications de la CGT, qui vont bien au-delà du programme du Front Populaire.
Et donc, comment on fait, notamment pour aller convaincre des gens dans certaines circonscriptions où ça a voté RN, comment est-ce qu'on fait pour aller les convaincre, ces gens ?
On discute avec eux. Il faut parler avec les gens, il ne faut pas avoir peur de débattre, de confronter des points de vue, voire même d'identifier une vraie colère, qu'on comprend, qu'on partage. Et par contre, après, c'est la traduction de cette colère-là, la traduction de la colère notamment des travailleurs et travailleuses. Nous, on pense qu'il faut qu'elle se traduise dans le fait de s'organiser collectivement avec la CGT pour faire que cette colère-là, l'injustice qui est mesurée au quotidien par les travailleurs et travailleuses, elle se traduise dans des revendications, dans des mobilisations pour qu'elle puisse s'imposer notamment au patronat et également aux décideurs politiques. Et traduire cette colère-là qui est issue d'une injustice sociale réelle, profonde et extrêmement forte, la traduire par un bulletin de vote Rassemblement National, c'est en réalité une contradiction totale si on est juste sur la mesure et qu'on regarde pour qui on vote en fonction de ses intérêts. Si on est travailleur et travailleuse et qu'on veut voter pour ses intérêts de travailleurs et travailleuses, à savoir les salaires, les conditions de travail, l'emploi et tout ce qui est périphérique, la question de la justice sociale, la question de la répartition des richesses, la question des services publics, c'est un bulletin progressiste qu'il faut mettre dans l'urne et surtout pas extrême droite.
Alors, je suis Catherine Dudès et je suis une des trois co-secrétaires départementales de la FSU.
Et donc, c'est quoi le positionnement de la FSU sur la situation politique actuelle et les dangers que représente l'extrême droite ?
La FSU est très inquiète, mais aussi très mobilisée et souhaite porter espoir en partant de ce que demandent les gens au quotidien, entre autres par le biais des services publics, pour essayer de porter un projet alternatif et émancipateur, libérateur, porteur de nouveaux droits pour toutes et tous. Voilà.
Est-ce qu'il y a des mobilisations du corps enseignant sur ces questions-là actuellement ?
Alors, le corps enseignant s'est mobilisé depuis le mois de décembre contre le fameux choc des savoirs et contre le choc d'autorité. Donc, la politique de Macron qui visait à trier les élèves ou à faire du collège un centre de triage avec des groupes de niveau et à permettant pas l'accès aux élèves qui n'avaient pas le brevet au lycée professionnel général et technologique. Donc nous, on avait fortement combattu le corps enseignant ces mesures. Et là, on est très inquiet et très inquiète des premières annonces de Bardella, puisque hier, quand on voit comment il décline rien pour les services publics en termes de moyens, et sur l'école, c'est la règle, coup de règle sur les doigts, bonnet d'âne et tablier, quoi. Nous, on a vraiment besoin de moyens enseignants, mais aussi d'infirmières, de médecins scolaires, de psychologues de conseillers d'orientation, d'assistantes sociales. Voilà, nous, on a besoin de... Ce qu'on porte la FSU, c'est qu'il faut porter à nouveau la question des services publics sur le devant de la scène pour être au plus près des besoins des personnes. Il ne s'agit pas, pendant le Covid, de taper sur, d'applaudir aux fenêtres pour soutenir les soignants et rien faire après. Et là, l'école est vraiment aussi au cœur au cœur des enjeux parce que ça détermine une politique de tri et autoritariste. Voilà. Et puis ça aussi interroge sur le devoir d'exécution des futurs agents et agentes de l'État. Et puis on se rend bien compte qu'il va assécher les services publics, qu'il n'annonce aucun financement pour leur redonner toute la place sur tous les territoires au plus près des usagères et des usagers. Donc nous, on est très inquiets et très inquiètes.
Et est-ce que vous vous sentez représentée politiquement par un parti qui défendrait du coup la protection des services publics ?
Alors la FSU en a un appel clair à soutenir le programme du nouveau Front Populaire qui reprend une grande partie de nos revendications. Et puis si l'espoir est là et qu'on a enfin une majorité pour construire une alternative politique, sociale et écologique, eh bien dans un deuxième temps, on compte prendre toute notre place pour agrandir encore notre champ revendicatif pour construire le monde politique, le monde syndical, le monde associatif, mais un monde meilleur quand même et plus juste.
Merci beaucoup à Léa Perron pour ce reportage. Donc c'était hier midi, place de la Bourse. Très rapidement, deux rassemblements qui auront lieu demain. L'un à 16h30, porte de Bourgogne, puis sur le pont de Pierre, par les mêmes organisateurs, les mêmes syndicats et collectifs qui étaient présents hier midi, place de la Bourse, avec un visuel qui sera déployé sur le pont de Pierre. Et puis un autre appel, 19h, place de la Victoire, à l'appel, je crois, du collectif antiraciste, antifasciste. Donc la mobilisation continue. Il y aura vendredi la présence de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui sera à l'université de Bordeaux sur le campus de Talence de 15h à 17h. Campus de Talence donc au bâtiment B18. 12h33 sur la clé des ondes. Deuxième sujet à l'ordre du jour de notre plat de résistance, c'est la situation en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Samedi dernier, 7 militants kanaks ont été arrêtés puis placés en détention à 17 000 km de leur lieu de vie dans des prisons métropolitaines, ce qui a déclenché une nouvelle vague de protestations. La cellule de coordination des actions de terrain, le CCAT, qui est l'organisation indépendantiste kanak, fait du retour de ce qu'elle appelle des prisonniers politiques une nouvelle condition à l'apaisement. Le collectif Solidarité Kanaky Bordeaux, qui vient lui tout juste de se constituer, organise demain soir une réunion publique sur cette grave situation en Kanaky. Le rendez-vous, c'est donc demain, jeudi, à 18h, au 29 rue du Maréchal Joffre à Senon. Pour résumer, rappelons qu'en 2021, Emmanuel Macron avait refusé de reporter de quelques semaines le troisième référendum demandé par les Kanaks en raison du Covid, ce report. Il s'en est suivi une période de 2 années où les visites successives et répétées du président et de ministres français ont abouti au projet de loi dit de dégel du corps électoral local. Un dégel entraînant la mise en minorité du peuple kanak face aux colons dans toute élection importante. Les mois de mobilisation populaire et pacifique du peuple kanak contre ce projet de loi n'ont pas empêché qu'il soit adopté à l'Assemblée nationale. C'était dans la nuit du 13 mai dernier. Et c'est depuis cette adoption que la révolte a explosé, notamment chez la jeunesse populaire kanak, causant déjà au moins 7 morts chez les habitants et 2 chez les gendarmes. Luc Tournabien habite depuis 1981 en Nouvelle-Calédonie. Il vient de publier un livre intitulé « Kanaky, Nouvelle-Calédonie, 40 ans d'émancipation pour mieux recoloniser, point d'interrogation ». C'est Patrick Balbastre qui l'a interviewé hier pour La Clé des Ondes et on l'écoute tout de suite.
Luc Tournabien, bonjour.
Oui, bonjour à la radio et bonjour également à la famille, les amis, les relations au pays qui pourraient éventuellement nous écouter.
Vous avez vécu pendant un peu plus de 40 ans en Nouvelle-Calédonie, vous êtes arrivé en 1981. Et donc là, on se retrouve dans une situation à nouveau très très difficile, mais bon, c'est un long fleuve difficile qu'a traversé la Nouvelle-Calédonie depuis l'arrivée des Français et des Blancs. Comment vous expliquez la situation actuelle ?
J'ai écrit un livre qui m'amène un peu sur votre radio, et dans lequel je signalais le danger de ces événements très très probables à mon avis, et j'avais même envoyé le dossier PDF du livre juste avant le vote, le premier vote au Sénat, pour alerter les sénateurs du risque d'explosion s'ils votaient cette réforme.
Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe sur place, bien sûr. On peut dire à ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie que l'heure est grave, très grave.
Elle est plus grave encore que pendant les événements dont un certain nombre de Français se rappellent en 84-88, puisqu'on arrive quand même à plus d'une dizaine de morts en un mois. On en avait 90 en 4 ans. C'est malheureux de faire ce type de décompte. Mais quand on voit les dégâts déjà sur Nouméa qui n'avait jamais eu comme ça en 84-88 et le nombre de morts, c'est carrément nettement plus dramatique. Pour ceux qui sauraient faire la péréquation,